Et les matins débutent avec le journal de Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement le présente comme un investissement inédit. Une large part de la communauté universitaire, elle, le conteste. Le projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est examiné à partir de cet après-midi à l'Assemblée. Nous y revenons en détail dans un instant.
Et dès demain, le protocole sanitaire en maternelle et en primaire sera moins strict. Parmi les changements, les camarades d'un élève testé positif ne seront plus considérés comme des cas contacts.
Si Israël est reconfiné, les manifestations sur place ne sont pas interdites. Les opposants au Premier ministre se sont donc une fois de plus mobilisés. Hier, nous serons à Jérusalem.
Et puis nous évoquerons aussi la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer.
Et les effets du confinement sur les malades. La maladie d'Alzheimer au cœur de la question du jour, Guillaume.
Eh bien oui, et au sujet d'Alzheimer, quelle est la part d'hérédité dans cette maladie, Marc ?
Et puis Casino mise en demeure de ne plus vendre de viande de bœuf issue de la déforestation en Amazonie. Démarche initiée par des ONG environnementales et des groupes indigènes sud-américains. La France souffre d'un déficit croissant d'investissement dans sa recherche. Les carrières scientifiques attirent de moins en moins les étudiants. Constat dressé dans l'introduction du projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, les députés l'examinent à partir de cet après-midi. Ce texte prévoit 25 milliards d'euros supplémentaires sur 10 ans. Un effort historique pour la ministre de la Recherche. Quant aux objectifs, Hakim Kasmi, ils sont multiples.
Avec ce projet de loi, Frédéric Vidal espère en priorité susciter des vocations chez les jeunes chercheurs en rendant leur carrière plus attractive, ce qui va se traduire concrètement par 92 millions d'euros par an pendant 10 ans. Deuxième grand axe de ce texte, la sécurisation des parcours scientifiques et l'amélioration de l'entrée dans le métier. Avec un plan pour les doctorants et les jeunes chercheurs qui prévoit d'augmenter de 30% le nombre de thèses financées dans toutes les disciplines et de rehausser de 30% leur rémunération. Il prévoit aussi de créer un contrat post-doctoral pour assurer une transition vers un poste pérenne. Un projet de loi qui prévoit également que le salaire des maîtres de conférences et des chargés de recherche ne soit plus en dessous de SMIC, ce qui vaudra surtout pour les jeunes recrues. La création de chaires de professeurs juniors, sorte de CDD de longue durée, qui doit aussi permettre d'autres voies de recrutement à la nouvelle génération de talents. Un dispositif qui existe déjà en Amérique du Nord et qui risque d'accroître la précarité des jeunes chercheurs, s'inquiètent déjà les syndicats. Enfin, pour améliorer l'attractivité dans un monde globalisé qui voit partir des talents à l'étranger, faute de postes et de moyens en France, Frédéric Vidal souhaite aussi faciliter l'accès au financement de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, grâce à une hausse de son budget, en soutenant, par exemple, la recherche de base et en augmentant le nombre d'ingénieurs et de techniciens titulaires. Autant de mesures avec lesquelles le ministère espère créer la croissance et l'emploi de demain.
Et si la ministre de la Recherche se félicite de ce projet de loi, son enthousiasme est loin d'être partagé par Christophe Voyot, co-secrétaire général du syndicat SNESUP-FSU, qui insiste sur le rôle de la recherche fondamentale.
Le problème principal que pose le mécanisme de l'appel à projet, c'est qu'il n'est absolument pas adapté à toute une partie de notre activité. Il faut préserver à tout prix de ce mécanisme, qui reste un peu aléatoire malgré tout, tout ce qui relève de la recherche fondamentale. N'oublions pas, et il faut le rappeler, même si c'est quelque chose d'un peu douloureux, que ces mécanismes d'appel à projet, quel que soit le niveau de sélectivité, n'ont pas permis à la France, qui disposait pourtant des compétences scientifiques pour le faire, d'avoir une recherche de haut niveau sur les coronavirus. Si on avait mis autour d'une table un certain nombre de gens capables de réfléchir sur les menaces qui pouvaient peser en matière virale sur nos sociétés, on aurait sans doute abouti à la conclusion qu'il était nécessaire d'avoir un financement récurrent sans passer par un mécanisme d'appel à projet pour ce type de recherche. Vous imaginez facilement qu'il y a bien d'autres domaines où on arriverait à la même conclusion.
Christophe Voyot, co-secrétaire général du SNESUP-FSU, l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche, appelle à manifester devant l'Assemblée nationale en début d'après-midi. Elle dénonce un texte qui institutionnalise la précarisation du personnel. À partir de demain, le protocole sanitaire dans les écoles sera assoupli. Décision du ministère de l'Éducation nationale qui était attendue. Sont concernées les classes où les enfants ne portent pas le masque, maternelle et primaire, Sébastien Sabiron.
Pour adapter le dispositif, le ministère de l'Éducation nationale a revu sa définition des cas contacts. Dès mardi, lorsqu'un élève sera testé positif, ses camarades et son enseignant ne seront plus considérés comme cas contacts. Pas de tracing, pas de test systématique, pas de fermeture de classe. Le gouvernement s'appuie sur le dernier avis du Haut Conseil de la Santé publique, selon lequel les enfants sont peu contagieux entre eux. Le Haut Conseil considère que le risque de transmission existe surtout d'adultes à enfants. Malgré tout, les fermetures restent possibles dès lors que trois élèves de fratries différentes sont confirmés positifs dans une même classe. Ils seront isolés chez eux puis retourneront à l'école après 7 jours et la fin des symptômes. Avec cet assouplissement, le ministère de l'Éducation nationale espère pouvoir garantir une continuité pédagogique plus stable, de quoi soulager certains parents qui craignaient des fermetures de classe à la moindre rumeur de Covid. Accueil plus frileux, en revanche, pour le SNUIPPFSU. Le premier syndicat du primaire espérait, au vu de la situation épidémique, non pas un assouplissement mais un renforcement du protocole.
Sébastien Sabiron. À Lyon, de nouvelles mesures de restriction vont être annoncées cet après-midi. Sur place, le nombre de personnes infectées sur une semaine pour 100 000 habitants est 4 fois supérieur à la cote d'alerte.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Marc Potvin sur France Culture. Près d'1 million d'habitants de la région de Madrid, eux, savent déjà à quoi s'attendre.
Oui, à partir d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir de leur quartier, sauf pour aller travailler, se rendre chez le médecin ou encore amener leurs enfants à l'école. Si la situation épidémique se dégrade en Espagne, le Premier ministre n'envisage pas un nouveau confinement du pays. En Israël, le reconfinement est en vigueur depuis vendredi. Ça n'empêche pas les anti-Netanyahou de poursuivre leur mobilisation, même s'ils étaient moins nombreux hier. Quelques milliers de manifestants à Jérusalem, contre 20 à 30 000 les dernières fois. Des manifestants, Frédéric Mettezo, qui se sont à nouveau rassemblés devant la résidence du Premier ministre.
Le camion à canon à eau est toujours là, au cas où. La foule chante toujours Bibi Chao. Egal, 23 ans, une serveuse de Haïfa qui a perdu son emploi à cause du reconfinement, est persuadée que Netanyahou a pris cette mesure pour casser le mouvement.
Les gens n'ont pas d'argent pour le loyer, ni la nourriture, ni rien du tout. Je n'ai plus de boulot maintenant. Il veut arrêter ces manifs.
Mossi Raz, un ancien député du mouvement de gauche Meretz, ne croit pas à cette théorie.
Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais fondamentalement, parce qu'il y a le reconfinement, parce qu'il y a la nouvelle année, on n'a pas seulement le droit de manifester, on en a l'obligation.
Un devoir aussi pour Dani, venu avec sa fille Enad, lycéenne.
Ça fait partie de l'éducation. Aujourd'hui, elle a fait ses devoirs sur les droits civiques et la révolution française. Et puis, c'est aussi une excuse pour aller dehors avec elle.
C'est important de venir pour changer les choses et dire notre opinion.
Normalement, les manifestants auraient dû se regrouper par 20, séparés par des barrières ou des rubans en plastique. Rien de tel hier soir, car le Parlement n'a pas eu le temps de voter ces mesures d'exception avant le week-end.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture à Jérusalem. En France, le confinement n'a pas été sans effet pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer. C'est ce que rappelle Isabelle Joly en cette journée mondiale dédiée à cette maladie. Isabelle Joly qui dirige une maison de retraite à Vannes dans le Morbihan.
Effectivement, les personnes Alzheimer, elles ont besoin de repères. Donc à partir du moment où on leur donne des repères fixes, donc une visite d'un proche tous les jours, ça peut être un repère pour elles. Et c'est vrai que les résidents qui avaient un conjoint à l'extérieur ou un enfant qui venait le voir régulièrement, tous les jours ça arrive très souvent chez nous, ces personnes-là n'ont plus cette visite-là qui finalement leur permet de rythmer un peu leur quotidien, de les stimuler, puisque chaque visite est une stimulation pour le résident. Pour certains résidents, effectivement, ce manque de stimulation et ce manque de contact a pu avoir un effet, on va dire, néfaste sur eux, un repli sur soi, des gens qui marchaient, qui se sont mis à avoir des difficultés pour se déplacer, des personnes qui communiquaient moins facilement également. Je pense que là, si on fait aujourd'hui le bilan, là, au mois de septembre, avec la reprise des visites, on va dire qu'il y a finalement très très peu de résidents qui en gardent encore les stigmates de cette absence parce que les familles sont revenues et ça a permis de les restimuler. Donc oui, pour certains résidents, il y a eu un effet effectivement néfaste de l'absence de visite, du confinement en chambre, notamment sur les personnes désorientées.
Isabelle Joly, qui dirige une maison de retraite à Vannes, dans le Morbihan, elle répondait à Wafia Kenich. Quelle part d'hérédité dans la maladie d'Alzheimer? C'est donc notre question du jour, juste après ce journal. D'abord, une rencontre avec des élus, puis une visioconférence avec la direction Europe de Bridgestone et un entretien avec des représentants du personnel. C'est le programme du déplacement de la ministre du Travail et de la ministre déléguée à l'Industrie cet après-midi à Béthune. Le gouvernement veut faire pression sur le géant japonais du pneu pour tenter d'éviter la fermeture du site de Bridgestone dans cette ville du Pas-de-Calais, site qui emploie près de 900 personnes. Casino dans le viseur de plusieurs associations écologistes. Notre affaire à tous, par exemple, mais aussi Sherpa, avec des groupes indigènes sud-américains. Elles mettent en demeure le groupe français de ne plus vendre de viande de bœuf issue de la déforestation de l'Amazonie, en Colombie et surtout au Brésil. Pour ces ONG, Véronique Rebérotte, Casino est complice de la déforestation.
C'est l'association Envol Vert qui a mené l'enquête à partir d'échantillons de produits carnés vendus dans plusieurs supermarchés du groupe Casino au Brésil. De la viande bovine vendue sur place, accablant Boris Patenträger de l'association Envol Vert.
Casino, c'est un groupe français, mais il y a la moitié de ses activités en valeur qui ont lieu au Brésil et en Colombie. Et on a fait une investigation au Brésil pour savoir d'où provenait le bœuf qui était vendu dans leurs magasins au Brésil. Et en fait, on a trouvé que sur les 10 magasins enquêtés, les 10 magasins avaient du bœuf issu de la déforestation. Il faut savoir qu'on coupe la forêt pour y installer du pâturage. Et tout ça, c'était des milliers et des milliers d'hectares. Et on a réussi à identifier des fermes qui avaient impacté sur la déforestation et qui étaient donc des fermes illégales, avec de la déforestation illégale.
Depuis 2017, le groupe Casino se doit pourtant de respecter la loi française sur le devoir de vigilance. Casino doit veiller à ce que l'approvisionnement de ses supermarchés, notamment en viande bovine, ne nuise pas à l'environnement et aux droits humains, ce qui n'est pas le cas. Lucie Châtelain de l'ONG Sherpa.
Ce plan de vigilance, il doit contenir des mesures propres à identifier les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement qui résultent des activités du groupe, de ses filiales, de ses fournisseurs, y compris à l'étranger, et à prévenir ces atteintes. Et le secteur de l'élevage bovin au Brésil est un secteur où il y a des risques très importants d'atteinte aux droits humains et à l'environnement, notamment travail forcé, déforestation, mais aussi empiètement sur des territoires indigènes et donc atteinte aux droits des populations indigènes.
Les ONG demandent à Casino de respecter ses obligations légales dans les 3 mois, sans quoi elles porteront l'affaire en justice.
Véronique Rebérotte. La météo pour aujourd'hui, toujours instable sur le sud du pays. Au fil des heures, les averses seront de plus en plus fréquentes. Elles deviendront orageuses à partir de la mi-journée. Ailleurs, c'est un temps globalement clément qui vous attend. Ce matin, il fait 13 degrés à Lille, 14 à Strasbourg, 16 à Paris et Brest, 20 aussi à Marseille.